Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizé Lichty.
Bâtiment noir, sécurisé et high-tech, voilà le lieu où je me suis rendue la semaine passée. Il se trouve à Saint-Imier, à côté de la Suze. Après l'avoir rénové et recréé de toutes pièces, l'entreprise DM Surface l'a intégré il y a maintenant un peu plus de 2 ans. DM Surface est spécialisée dans la décoration horlogère moyenne et haut de gamme. Alliée de la galvanoplastie, de la gravure et de la décoration traditionnelle, c'est le fonds de commerce de cette entreprise qui fête cette année son 10e anniversaire. Avec sa 40aine d'employés, des pièces de montres y sont transformées et embellies. À la tête de ce petit empire se trouve Andrea De Luca. Ce fils d'immigré italien de Lecce, pour être précise, m'a reçu et m'a fait visiter les 3000 mètres carrés sur 3 étages de son usine imérienne. Une salle de laser, de la décoration, des techniques nécessitant des savoir-faire pointus. Il pilote ses employés qui possèdent des métiers de plus en plus polyvalents, mais aussi de plus en plus durs à dénicher. Si on avait demandé au patron de DM Surface ce qu'il souhaitait faire dans la vie, il n'aurait jamais imaginé être dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, en tant que fonceur et exigeant, ce rôle, il l'assume pleinement aujourd'hui. Il se décrit d'ailleurs comme quelqu'un qui a du flair, qui se donne les moyens et qui ne supporte pas l'échec. Andrea De Luca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise spécialisée dans la décoration horlogère. La décoration horlogère, c'est quoi ?
Alors, la décoration horlogère consiste à regrouper une multitude de petits métiers qui permettent de décorer et d'embellir des montres allant des composants de mouvement jusqu'à l'habillage.
Vous parlez de petits métiers, quoi précisément ?
Alors, petit et moyen métier. Donc, par exemple, nous avons de la décoration dite traditionnelle. Donc, ce sont des petites machines CNC qui permettent de faire des petits décors regroupant une multitude de savoir-faire de différentes personnes qualifiées. Ensuite, nous avons un atelier de galvanoplastie qui permet de faire de la mise en couleur. Et nous avons aussi un atelier de gravure laser, où là, nous pouvons faire une multitude de choses.
Alors, la galvanoplastie, je ne pense pas que tous nos auditeurs savent de quoi il s'agit. C'est quoi, en quelques mots, en simple ?
Alors, la galvanoplastie, ou l'électroplastie, consiste à revêtir un métal ou un alliage sur des composants métalliques.
Ça veut dire que vous déposez des pièces, en fait, sur les montres ?
Alors, on ne dépose pas des pièces, mais on dépose un métal ou un alliage, donc du métal. Je prends un exemple, vous prenez une pièce en laiton, et on souhaiterait la dorer. Par cette technique, on arrive à réaliser ce dorage.
Des techniques assez spécifiques. Vous avez fait quoi comme étude ?
Alors moi, j'ai une formation d'électroplaste.
Et c'est quoi ça ?
Ça consiste justement à piloter ces fameux bains galvaniques qui permettent de déposer ces métaux sur les différents composants qui nous regroupent.
Et puis, vous vous êtes lancé, après vos études, tout de suite dans ce domaine-là ?
J'ai toujours gravité dans le monde horloger. J'ai travaillé dans une multitude de sociétés dans le domaine de l'horlogerie, avec des ateliers qui étaient équipés d'ateliers de galvanoplastie. Et dans mon cursus, j'ai basculé dans le technico-commercial. Donc, à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à vendre des installations et des procédés liés dans le métier de l'électroplastie.
Alors, pourquoi un jour avoir décidé de vous lancer en tant qu'indépendant, Andrea De Luca ?
C'est pas que j'ai décidé. Il y a eu un concours de circonstances. À l'époque, je me suis associé avec une personne et d'un commun accord, tout par hasard, en buvant une bière sur une terrasse, on a dit « qu'est-ce que t'en penses ?» On monte une boîte, et ça s'est fait comme ça, 6-7 mois après, nous avons monté un atelier de galvanoplastie, donc à La Chaux-de-Fonds. On était dans un petit atelier de 30 mètres carrés, et c'est parti de fil en aiguille comme ça.
Et ça date de quand ?
Ça date d'il y a un peu plus de 10 ans en arrière. Donc la société a été créée le 31 janvier 2007. Et cette période que je vous ai citée tout à l'heure, c'est les 6-7 mois qui précédaient la date.
Pourquoi avoir choisi ce créneau de la galvanoplastie ? Est-ce que c'est parce que vous aviez fait des études là-dedans ?
Alors, je suis tombé dans la soupe tout par hasard. Mon papa était aussi galvanoplaste. Et un jour, quand j'étais adolescent, j'avais besoin de gagner de l'argent pour acheté un skateboard, c'est une petite histoire. Et puis, mes parents ont émigré, c'était pas forcément facile. Mon papa m'a dit, tu viens travailler à l'usine. Et puis, c'est clair que d'expliquer ce que c'est le monde de la galvanoplastie, si on l'ait vu une fois, c'est difficile. Et en ayant découvert le métier, en ayant fait ce stage, c'est là que j'ai vraiment découvert le métier. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer.
Alors, vous venez de le dire, vous êtes fils d'immigrés, italien de Lecce, précisément. Voilà. C'est une fierté pour vous d'être fils d'immigrés, d'avoir maintenant monté votre propre boîte?
Oui, c'est une certaine fierté, parce qu'il faut penser à une chose, les immigrés qui viennent d'Italie ou d'autres pays en Europe ou ailleurs, ça n'a pas été facile pour eux de tout quitter pour venir en Suisse, en l'occurrence, pour survivre. Parce que c'est le cas pour une multitude de gens. Et ce qui s'est passé, ils ont créé leur famille. Moi, je suis fils d'immigré, mais je suis né en Suisse. J'ai fait toutes mes études en Suisse. Et pour répondre à votre question, oui, c'est une certaine fierté de travailler en Suisse avec tout ce cursus.
Alors, avec votre associé, vous vous êtes retrouvé dans un local à La Chaux-de-Fonds. Et puis, tout à coup, c'était un petit peu étroit. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, il s'est passé plusieurs choses. Donc, comme j'ai dit avant, on a créé l'entreprise pour faire de la galvanoplastie. Donc, on a une petite ligne galvano. Et puis, petit à petit, en fonction du marché qui s'est développé et de la conjoncture de l'époque, ça a grandi très vite. En quelques années, on a équipé les locaux, on a embauché du monde, et puis on a grandi. À un moment donné, il y a environ 5 ans en arrière, il y a eu un autre concours de circonstances, j'ai dû me séparer de mon associé, et depuis je continue tout seul l'aventure, et je pense que depuis là, on a vraiment explosé en termes de développement, et à un moment donné, on avait besoin de surface. Et le problème à l'époque, à La Chaux-de-Fonds, on n'a rien trouvé qui correspondait à nos attentes. Donc à un moment donné, on a cherché, on a essayé de racheter des bâtiments potentiellement qui étaient là, mais ça ne jouait pas. Et d'un commun accord, tout par hasard, en buvant le café un samedi matin à Saint-Imier avec un ami, il m'a dit, tiens, il y a une entreprise à vendre, je te donne les coordonnées du directeur. Et tu regardes, chose que j'ai faite, je me suis mis en relation avec le directeur, et puis ça tombait bien, lui avait besoin de vendre le bâtiment, et nous on cherchait un bâtiment. Et puis le bâtiment était relativement vétuste, mais par contre énormément de potentiel de réaménagement en fonction de ce qu'on a construit aujourd'hui. Et ça s'est fait comme ça, très vite.
Vous avez donc changé de canton, du canton de Neuchâtel au canton de Berne. Oui. Est-ce que là il y a eu des incidences ?
Alors, il y a toujours une crainte de se dire qu'est-ce qui va se passer si on change de canton, pas forcément de canton, mais de géographiquement, qu'est-ce qui va se passer. Alors, étonnamment, je dois le dire aujourd'hui avec du recul, ça a été plus que positif. Pour plusieurs raisons, c'est que la clientèle, les gros, donc pour parler un petit peu de nos clients, on travaille essentiellement avec les gros acteurs de l'horlogerie, mais le fait d'avoir déménagé, on a perdu des clients, mais on a fidélisé des clients de longue date. Donc ça veut dire aujourd'hui, qu'on soit situé soit à Saint-Imier, soit ailleurs, nos clients avec qui on fait du business tout au long de l'année, ils nous suivent. Donc ça a été très bénéfique.
Donc pas beaucoup d'incidence. Combien est-ce que vous avez de clients, Andrea De Luca?
Alors je vais vous donner deux chiffres. Avant le déménagement, on en avait environ 250. Aujourd'hui, on en a 170.
Qu'est-ce qui explique ce recul ?
Il y a plusieurs facteurs, probablement. C'est, un, la conjoncture actuelle. Vous le savez aussi bien que moi, l'horlogerie souffre depuis quelques années en fonction de la crise. Mais ce n'est pas que ça. Deux, aussi, il y a une volonté de ma part de renforcer le partenariat avec directement les marques. Je m'explique. Quand on travaille avec une marque horlogère, souvent, elle va nous, peu importe la prestation qu'on va lui offrir, souvent elle nous oriente chez un fournisseur ou un sous-traitant du fournisseur. Donc on travaille vraiment en boule de neige. Et ces petits ateliers, il y a chaque fois, on n'est jamais l'acteur principal. Donc le fait d'avoir déménagé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et le fait d'avoir renforcé le partenariat avec la plupart de nos clients, ces clients-là n'existent plus chez nous.
Ça veut dire que maintenant, vous avez principalement des clients haut de gamme, des grosses marques ?
Voilà, on travaille essentiellement avec la plupart des grands groupes horlogers, voire même marques indépendantes, mais on est en direct, on a très peu de sous-traitants. Ou alors les quelques sous-traitants que nous avons appartiennent à des grands groupes.
Et comment vous faites pour les fidéliser ?
C'est le challenge de tous les jours. Pour fidéliser un client, je pense qu'il faut respecter trois choses. C'est la qualité, c'est les délais, c'est les coûts. Et un quatrième, c'est pouvoir se dépasser, c'est innover en permanence.
Alors vous faites de la décoration horlogère haut de gamme. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans la région, dans l'arc jurassien ?
Bien sûr. La concurrence, je pense que c'est un mal nécessaire. Pourquoi ? Parce que j'estime que dans notre secteur, s'il n'y aurait pas de concurrence, à un moment donné, on stagnerait. Pardon. Et le fait d'innover, on n'aurait peut-être pas forcément la même niaque. Donc le fait d'avoir une concurrence, ça nous permet de se remettre tous les jours en question et voir un peu ce qui se passe ailleurs pour pouvoir aller plus loin.
Et face à cette concurrence, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer ?
Tant bien que mal, on essaye de mettre toute l'énergie inimaginable dans les moyens de production, dans le recrutement de personnel qualifié, et l'un dans l'autre, la réactivité, puis comme j'ai dit avant, aussi la qualité.
Une pièce arrive à l'état brut chez DM Surface à Saint-Imier. L'entreprise nous a ouvert ses portes. Et vous, Andrea De Luca, vous avez fait transiter Nadia Schmirou entre les ateliers, les machines de galvanisation, de gravure laser et même dans la station d'épuration installée au cœur de l'entreprise. On écoute son reportage.
Sortie de boîte.
Tout commence ici, c'est-à-dire tout ce qu'on reçoit en fonction du cahier des charges de nos clients, tout est contrôlé à l'entrée.
Les composants que vous recevez, ça peut être des boîtes, des cadrans, des bracelets ?
Oui, absolument. On touche à toutes sortes de composants liés à l'horlogerie. Que ce soit, comme vous venez de dire, cadrans, aiguilles, boîtes, bracelets. Et on a aussi une petite activité de temps en temps. On reçoit aussi des composants qui sont des pendulettes, donc des pièces un peu plus grandes. Voilà, on arrive dans l'atelier de galvanoplastie. Alors ici, on rentre vraiment dans une zone, entre guillemets, sensible. Pourquoi sensible ? La galvanoplastie, principalement, ce sont des produits chimiques. On utilise une multitude de chimies. Je ne veux pas dire tout le système périodique, mais un bon nombre de composants acides, alcalins, voire cyanurés. On est équipé de plusieurs lignes galvaniques. Donc, lignes galvaniques, donc, ce sont des cuves avec toute son infrastructure qui permettent de faire ces différents traitements. On a notamment ces lignes qui sont les lignes de préparation. Alors je m'explique, préparation, quand on reçoit des composants, peu importe la géométrie et la typologie de la pièce, elles ont de toute façon une gamme de salissures. Elles peuvent être sales de poussière, elles peuvent être sales de corps gras. Alors avant de faire quoi que ce soit comme traitement galvanique, nous sommes dans le devoir de nettoyer et de préparer la surface. Alors cette première ligne, si on se déplace, ce que vous entendez là, c'est une cuve à ultrason. Donc on vient faire un nettoyage par ultrason. Ces bruits, donc ce sont les ultrasons, c'est une opération mécanique qui vient dans une lessive, dans un produit alcalin, qui vient nettoyer la pièce mécaniquement à travers la chimie pendant un certain temps, dans un certain bain, dans une certaine concentration. C'est, je dirais, une des premières étapes avant d'aller plus loin. Alors ici, on arrive, je dirais, dans le cœur de la galvanoplastie. On rentre vraiment dans un bain galvanique, qui est notamment ici, ce sont les bains de nickelage. Donc, on dépose du nickel à travers toujours ces fameux bouclards qui contiennent ces fameux composants horlogers. On fait passer du courant en fonction de certains calculs qu'on doit opérer. Et ce courant va faire passer des ions métalliques qui viennent se déposer sous forme de nickel sur les pièces. Ce que vous pouvez constater, on me demande souvent ce dégagement que vous pouvez observer. On est en train de déposer, ce que vous voyez, cette mousse, ce dégagement, c'est de l'hydrogène. Ici, on en est rentré dans le département laser CNC 5 axes. C'est ici essentiellement où on vient graver la plupart de nos composants, où on vient créer aussi les différentes textures sur quasiment la totalité des composants qui se transitent chez nous. Donc derrière vous, on a une machine qui tourne, où vous avez des fonds en titane, où on est en train actuellement de graver au laser. La flamme que vous voyez, c'est le déplacement du laser. Et puis petit à petit, ça ronge la matière, on peut dire ça comme ça, selon des spécifications qui nous sont données par le client et surtout par rapport au travail qui a été exécuté au bureau technique. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir dire et avoir une étiquette d'être une entreprise verte. Je m'explique, verte, vraiment rejet zéro. Avec la multitude de produits chimiques qu'on exploite tous les jours et des déchets qu'on génère, on a vraiment une station d'épuration très très high-tech avec tous les différents circuits d'eau, des eaux résiduaires qui ont été réfléchies, pensées et séparées. Donc ici, nous avons une installation qui traite 37 mètres cubes à l'heure. C'est une installation qui tourne en permanence parce que c'est vraiment le cœur névralgique de l'entreprise. Donc ça veut dire que si l'installation, pour x, y raison, elle est en panne, elle est arrêtée et autre, on ne produit plus. Je voulais vous montrer cette pièce, donc la Terre, tout en laiton. Et on est venu créer tous les océans, on est venu créer tous les continents. J'insiste beaucoup sur cette pièce parce qu'on gravite dans un monde, je me répète, où on a la possibilité un petit peu de se lâcher afin toujours s'exprimer tant bien que mal, quoi.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous pouvez réécouter sur notre site internet. Retour dans les studios à Tavannes avec le patron d'EDM Surface, Andrea De Luca. On l'a dit, vous utilisez beaucoup de métiers, de techniques très diverses pour décorer les pièces de montre. Mais vous êtes surtout leader dans un domaine, lequel ?
On a réussi à se diversifier principalement dans les techniques de laser. Donc qui dit laser, donc de microstructuration laser.
Et ça vous est venu d'où ?
Encore une fois, tout par hasard. Quand on a monté à l'époque l'entreprise, on avait l'atelier galvanoplastie. À un moment donné, certains clients nous donnaient des composants à faire et puis ils nous demandaient, ben, tiens, ça serait pas mal, est-ce que tu pourrais pas gérer aussi la gravure ? On l'entend une fois, deux fois, trois fois, on commence à travailler avec un réseau de sous-traitance, et puis à un moment donné, on se dit, ben tiens, si les autres savent le faire, pourquoi pas nous ? Pour verticaliser des métiers en interne. On a acheté un premier laser. Alors au début, c'est clair, c'est nouveau. Après, il vous faut un pilote. On a trouvé un pilote, puis après, il faut vendre une technologie. Et ça prend du temps. Et puis un jour, on a un client qui nous a fait confiance sur une pièce assez complexe, et c'est parti, petit à petit.
Ça veut dire quoi ? Vous vous dites leader dans ce domaine-là ? Ça veut dire qu'en Suisse ou en Suisse romande, vous êtes les seuls ou presque les seuls à posséder cette technologie-là ?
Alors, je ne dirais pas qu'on est les seuls. Par contre, on a une façon de travailler avec une infrastructure, avec tout un équipement relativement high-tech qui nous permet d'être très, très réactifs et on se donne les moyens de répondre à la demande très rapidement et d'aller toujours plus loin.
Vous avez combien de lasers ?
Aujourd'hui, entre la première et la dernière machine, on avoisine les 20 machines de différentes générations.
Et ça a remplacé les anciennes machines ? Vous en avez fait quoi ?
Alors, nous n'avons pas remplacé les anciennes machines, on les a rétrofitées. Je m'explique, la machine, à un moment donné, si elle commence à arriver en fin de vie ou si elle est dépassée techniquement, à la place de se dire de la changer et puis prendre autre chose, on va venir intégrer un nouveau composant sur la machine existante. Et ça permet de redonner une deuxième vie et continuer à l'exploiter tant bien que mal.
Alors moi je les ai vues ces machines, hein, elles sont gigantesques, plus grandes que nous. Est-ce qu'elles remplacent l'homme ?
Alors, c'est pas qu'elles remplacent l'homme. Si on parle de remplacer l'homme, il faudrait robotiser. Donc robotiser, ça veut dire c'est un robot qui ferait les opérations dites manuelles. Mais aujourd'hui, dans le secteur où nous sommes et le produit que nous traitons, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas le but, parce que quand même, pour arriver à une qualité en fonction de ce que nos clients demandent, on a quand même besoin de l'homme, comme vous dites, mais de l'homme relativement spécialisé.
Alors DM Surface, votre entreprise est spécialisée dans la décoration horlogère. Est-ce que vous diversifiez déjà ?
Alors, on essaye de se diversifier. Il est clair que notre activité principale, c'est l'horlogerie. Depuis un peu plus d'une année, on est rentré dans le médical pour diverses raisons. On s'aperçoit que les techniques qu'on exploite pour nos amis horlogers, on peut les exploiter aussi pour d'autres secteurs. Donc on a commencé à travailler dans le médical. Ça a été très dur à rentrer parce que c'est un autre monde, c'est un autre domaine. Mais tant bien que mal, on est dedans. Et on a l'intention de continuer à développer dans d'autres secteurs.
On a peut-être un petit peu de la peine à s'imaginer dans le domaine médical. Vous faites quoi, par exemple ?
Alors, on travaille principalement des composants qui sont des outils que les chirurgiens vont utiliser comme identification. Donc c'est là qu'on intervient, on vient faire une gravure un peu spécifique, parce qu'il faut s'imaginer un chirurgien quand il doit opérer, peu importe ce qu'il doit faire, c'est un mécanicien. C'est comme vous amenez votre voiture au garage, le mécanicien il a besoin d'une clé pour démonter une bougie ou je ne sais quoi, ben là c'est la même chose. Alors pour lui faciliter la vie, on est venu lui créer des textures, donc on parle vraiment de textures esthétiques mais fonctionnelles, pour lui aider.
Un autre domaine, maintenant, le bâtiment que vous avez construit à Saint-Imier a une particularité. Vous travaillez avec des produits dangereux et vous avez créé une station d'épuration, c'est ça ?
Oui, absolument. Donc là, ça touche essentiellement la galvanoplastie, du fait, comme vous venez de le dire, on utilise quand même des produits relativement toxiques, donc des produits acides, des produits alcalins et quelques produits cyanurés. Et pour être aux normes vis-à-vis de tout ça, on a investi dans une station d'épuration qui est plus que high-tech et fonctionnelle.
Ça veut dire qu'il y a zéro déchet qui ressort de votre entreprise ?
Absolument. On est vraiment en rejet zéro.
Comment ça se passe ?
Alors, ça se passe de la façon suivante. Déjà, quand on a créé le bâtiment, donc on avait le projet, on savait les installations qu'on voulait installer, on s'est rapproché de plusieurs sociétés en fonction d'un cahier des charges que moi et mes équipes à l'époque avons fait l'engineering. Certaines sociétés ont trouvé relativement lourd le dossier, se sont retirées, puis d'autres ont accepté le challenge. Puis en finalité, on a choisi de travailler avec une. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait, avec les conditions qu'elle avait avec, on a directement présenté le projet au BECO. Donc le BECO, c'est la protection de l'environnement du canton de Berne, pour qu'ils nous valident la technologie. Et une fois qu'on a construit et qu'on a mis en service les installations, ils sont venus, ils nous ont même félicité du travail qui a été exécuté.
On continue à parler d'horlogerie. Comme chaque semaine, Marie-Lise Saillard nous parle des actualités dans ce domaine. Ce soir, place à une célébration.
Pile à l'heure. Nous sommes en 2017 et en 2017, la maison Piaget a quelque chose à fêter. Cette année correspond au 60e anniversaire d'un modèle iconique, la montre extraplate Piaget Altiplano, née, si vous savez compter, en 1957. Bravo! Mais l'extraplat est en réalité entré dans la vie de l'entreprise de la Côte aux Fées bien avant cette date. Dès le début du XXe siècle, la maison apparaît déjà dans les catalogues de fournisseurs comme experte en composants extraplat. À la foire de Bâle, en 1957, Piaget présente son calibre à remontage manuel extraplat 9P. Il fait seulement 2 mm de hauteur. Et voici comment la marque communique à l'époque. Réputée pour sa parfaite ergonomie, la montre extraplate Piaget possède une allure telle qu'elle comble immédiatement une clientèle en quête d'un style sans superflu. Bon, sans être aussi dithyrambique, il faut quand même reconnaître que la sobriété de cette montre l'a fait entrer dans l'histoire de l'horlogerie. Au début des années 60, un acteur français, icône de style de sa génération, adopte cette montre. Vous voyez de qui je veux parler ?
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Et oui, c'est lui. Alain Delon.
Vous savez, lorsqu'on arrive à un degré de carrière, modestement comme moi, et je veux dire de professionnalisme et de pratique, il y a quand même 70 films, 25 ans, j'ai la prétention de connaître mon métier.
Quelques décennies plus tard, c'est Ryan Reynolds qui porte une Altiplano. Ryan Reynolds, il paraît qu'il est connu. Et pour les 60 ans de son modèle iconique, la manufacture Piaget dédie l'année 2017 au modèle Altiplano. À cette occasion, elle a sorti une collection en édition limitée, 460 de chaque. Un mouvement mécanique à remontage manuel pour le petit modèle, cadran 38 mm. L'autre à remontage automatique, cadran plus grand, 43 mm.
Aussi plate qu'une olimande, elle joue à la
marche. Pile à l'heure.
De retour dans nos studios, en deux mots, quelle est la suite pour DM Surface, Andrea De Luca ?
Alors, la suite pour nous, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est continuer à innover pour être complètement présent vis-à-vis de nos clients actuels. Bientôt, nous allons exposer à l'EPAJ, comme on le fait chaque année, donc le salon professionnel de la sous-traitance, notamment chez les horlogers. Et comme on le fait chaque année, on essaye d'innover dans des nouveaux décors, des nouveaux substrats, des nouvelles matières.
Sortie de boîte, s'achève ici. Nous étions en compagnie d'Andrea De Luca ce soir, patron de l'entreprise de décoration horlogère DM Surface basée à Saint-Imier. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet dans le courant de la soirée avec également quelques photos de l'intérieur de l'entreprise. Merci beaucoup Andrea De Luca d'avoir été présent.
Merci à vous.
La semaine prochaine, Cédric Adrevert vous emmène à la patinoire. Dans les mains de hockeyeurs de toute la planète, on trouve des cannes fabriquées à Port-en-Truy. Il sera question de l'entreprise Composite Bouche. D'ici là, très belle soirée à tous.
Sortie de boîte.